de l'ouvrier à l'agent de service, pratiques sociales et mécanismes d'identification des nettoyeurs et nettoyeuses.
Bien, donc tout d'abord, merci beaucoup à Sabine et Fabien pour cette invitation. Donc je vais essayer de pas trop lire ce que j'ai écrit, c'est pas évident pour moi, mais bon, je vais faire du mieux que je peux. Alors je voulais repartir un petit peu du coup de choses que j'ai entendues tout à l'heure, notamment dans la présentation de David Gaborio, qui disait que quand il parlait de l'émergence du secteur de la logistique, qu'il y avait eu tout un discours managérial où la manutention était devenue de la logistique. Et où, au passage, on avait, je crois que tu as parlé d'invisibilisation du côté ouvrier, notamment en valorisant la technique, etc. Et c'est très intéressant parce qu'on a exactement la même chose dans ce que moi j'appelle plutôt le secteur du nettoyage, mais qui lui-même, dans le discours patronal, s'appelle aujourd'hui le discours de la propreté. C'est-à-dire qu'on arrête complètement de parler de nettoyage. La fédération patronale est devenue la fédération des entreprises de propreté et services associés. Et donc, il y a tout un changement comme ça, qui s'observe notamment dans la convention collective, qui s'appelle donc la convention collective de la propreté et services associés. Et cette convention collective, par ailleurs, tend à effacer totalement la figure de l'ouvrier. Le terme d'ouvrier lui-même n'apparaît pas du tout dans la convention collective. On trouve des termes tels que agent de service échelon 1, agent très qualifié de service échelon 2, des choses comme ça dans les grilles de classification. Les termes donc d'agent, de salarié, de travailleur sont préférés aux termes d'ouvrier. Plus étonnant également, c'est ce terme d'agent de propreté peut être parfois, à certains moments de la convention collective, opposé à d'autres catégories qui seraient plus habituelles, les catégories d'employés, de techniciens ou de cadres notamment. Donc s'agissant des préavis de rupture par exemple, on a les dispositions qui sont différentes en fonction des catégories, et les catégories sont agent de propreté, employé, technicien et agent de maîtrise et cadre. Là où si on avait la classification des PCS, on attendrait plutôt ouvrier à la place d'agent de propreté ou quelque chose comme ça. Donc on a une substitution de l'opposition classique ouvrier-employé via une opposition agent-employé. Alors est-ce qu'il faut pour autant en conclure que les nettoyeurs et les nettoyeuses ne sont pas des ouvriers et des ouvrières? Rien n'est moins sûr évidemment, et ça va être un peu tout l'objet de ma présentation. L'importance de la dimension manuelle du travail, dont notamment Sabine parlait au début quand elle explique un petit peu qu'est-ce qui fait que le travail est ouvrier. Finalement, tu avais évoqué ça et puis d'autres choses. Et en fait, toutes ces caractéristiques-là, on les retrouve dans le travail de nettoyage. Donc, dans cette mesure-là, on a bien affaire à du travail ouvrier, les pratiques sociales qui sont mises en jeu, les processus de construction identitaire d'au moins une partie des nettoyeurs et des nettoyeuses font bien référence au monde ouvrier. Donc ici, je vais essayer de montrer comment ces références sont à la fois dans la continuité du travail ouvrier qu'on peut trouver à l'usine et qui a été beaucoup étudié, notamment dans l'automobile, et à la fois redéfini, notamment du fait de l'existence prépondérante, dans le cas du nettoyage, d'une relation de service. Pour ça, je vais m'appuyer sur mon travail de thèse, sur l'enquête que j'ai réalisée pour ma thèse, essentiellement par observation et entretien sur trois terrains où je me suis moi-même immergé comme nettoyeur, donc un petit peu comme tu as fait David dans la logistique. Je décris très rapidement les terrains, je pourrais donner des détails si vous voulez, mais donc je donne très rapidement le cadre. Le premier terrain, c'était une moyenne entreprise, donc je l'appelle Clarinette ici, d'une trentaine de nettoyeurs, tous des hommes. Et cette entreprise-là, elle travaillait presque exclusivement pour une chaîne de magasins que j'appelle Discount Plus. Et donc, tous les jours, on allait nettoyer un magasin Discount Plus différent. C'était du travail en équipe qui se faisait généralement de soir, qui parfois pouvait être vraiment du travail de nuit, pouvait durer jusqu'à 7 heures du matin. Le second terrain, c'est une crèche que j'appelle les Bambins Heureux. Donc là, on était deux agents de service intégrés à la structure. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est le seul terrain où il n'y a pas de sous-traitance, pour le coup. Donc on était directement intégré à la structure où il y avait une directrice et une quinzaine de professionnels de la petite enfance, ainsi que donc ma collègue agent de service et moi-même. Autre chose intéressante sur ce terrain, le terrain est exclusivement féminin à part moi. Troisième terrain, et autre élément un peu important également, il n'y avait pas que du nettoyage, puisqu'il y avait aussi des tâches de blanchisserie et de préparation de nourriture. Le troisième terrain, c'est une agence d'un très grand groupe multiservices qui a 70 000 salariés, dont 40 000 dans le secteur du nettoyage au moment de l'enquête. Et donc là, j'ai été affecté au nettoyage d'un hôpital, donc on va potentiellement reparler un peu de choses similaires, avec une centaine d'autres personnes sur le site affectées au nettoyage dans cette entreprise. Donc là également, on avait de la sous-traitance. des horaires plutôt variables, mais pas de travail de nuit globalement, et un personnel relativement mixte, composé à peu près de moitié d'hommes et de femmes. Donc pour le plan de ma présentation, il va falloir vraiment que j'accélère. Je vais d'abord parler des pratiques sociales, expliquer un petit peu en quoi c'est bien des pratiques ouvrières, à quoi on a affaire. Ensuite, je vais m'intéresser plus spécifiquement à la relation de service dans le secteur du nettoyage. Et puis, si j'arrive à trouver le temps, je parlerai un petit peu de l'identification des ouvriers et des ouvrières, et notamment du est-ce que ces personnes se définissent elles-mêmes comme ouvriers et comme ouvrières. Alors, si le discours patronal et institutionnel dont j'ai parlé un peu au début tend à les éloigner du monde ouvrier, les pratiques de travail observées sont à l'inverse, souvent très ouvrières, c'est-à-dire rappellent des choses qu'on connaît chez les ouvriers, en particulier du côté des formes de résistance qui sont adoptées, depuis le freinage jusqu'au travail en perruque, en passant par des valorisations du travail manuel qui rappellent justement la culture d'atelier dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est tout à fait révélateur d'un travail absolument ouvrier, à mon sens. On a un travail qui est relativement taylorisé, au sens d'une distinction très forte entre la conception et l'exécution du travail, une division verticale du travail, si on veut. La formation s'y fait en raison notamment de cette division très forte, très souvent sur le tas, c'est-à-dire il y a très peu de formation. À titre d'exemple, les nettoyeurs sont 3 fois moins nombreux que le reste de la population active à avoir passé dans la quête emploi du temps en formation au cours de la semaine écoulée. Donc on a une formation qui est assez peu importante et qui est essentiellement assurée sur le tas via les nettoyeurs eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette délégation de la formation aux ouvriers eux-mêmes, d'un côté elle permet aux employeurs du secteur de ne pas trop dépenser dans la formation de leurs ouvriers, ce qui est très important pour eux, mais de l'autre elle permet aussi le développement de stratégies de résistance de la part des ouvriers et des ouvrières. Donc là je vais en citer un petit exemple, donc ça se passe à l'hôpital sur mon 3e terrain où je suis en compagnie d'Aziz. Aziz qui est censé m'apprendre, hein, les chefs nous ont envoyé pour décaper une pièce, c'est-à-dire qu'on retire la cire qui est posée sur le sol et qu'on en repose une nouvelle, grosso modo. Et Aziz doit m'apprendre à faire ça. Donc on y va, il m'explique un petit peu tout ce que je dois faire. Et ce qui est intéressant, c'est que Aziz va à la fois me transmettre des techniques, c'est-à-dire qu'il va m'expliquer dans quel ordre on procède, comment on utilise telle machine, combien de temps de séchage pour la cire, etc. Il va me transmettre des normes d'hygiène en me disant « attention, là, tu dois mettre tes gants » ou ce genre de choses. Donc, il va me donner des conseils là-dessus. Et en même temps, il va également me transmettre comment on fait pour tromper la hiérarchie et poser une seule couche de cire au lieu de deux pour aller plus vite. Donc, en théorie, on est censé poser 2 couches de cire et lui va me montrer comment on peut en poser une seule plus épaisse et que du coup, la hiérarchie ne va pas voir qu'on n'en a posé que 2. Ensuite, me dire « par contre, là, il faut dire qu'on en a posé 2 ». Donc il me transmet en même temps que les compétences techniques la capacité de résistance qui peut être mise en œuvre. Ça m'a beaucoup fait penser à l'exemple de ce que Linhart décrit dans l'établi quand il parle des 3 ouvriers là, qui recomposent le poste pour travailler uniquement à 2 et que le 3e puisse aller faire autre chose. Alors on retrouve, du coup je ne vais sans doute peut-être pas parler de tout, on retrouve également des pratiques de freinage très importantes dans le secteur qui ne sont pas toujours exactement similaires à... Ouais, bah, j'ai les deux en même temps. Qui ne sont pas toujours exactement mises en œuvre de la même manière que ce qui est décrit par Roy, puisqu'il n'y a pas toujours de salaire au rendement, etc. Mais notamment qui vont être mises en œuvre au travers de pratiques d'évitement, de détours, quand on doit se rendre d'un point à un autre, de détours inutiles simplement pour éviter, pour freiner le travail, quoi. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus parce que je ne vais pas avoir le temps sinon. On a également des pratiques de détournement, donc où là on est plus proche des pratiques de travail en perruque ou de ce genre de choses, ou également de vols de matériel, de petits vols de matériel, qui sont très importantes, qu'on retrouve dans à peu près toutes les entreprises, sauf à la crèche pour la question du vol. Mais par contre, on retrouve bien un peu de travail en perruque à la crèche. Et donc j'évoque la chose notamment avec Sandrine, qui est chef d'équipe, donc toujours à Valévol, à l'entreprise qui est sous-traite à l'hôpital. Et j'évoque la question du matériel, du coup, avec elle. Et donc là, elle me dit, je la cite, il y a eu un peu carrefour, il y a aussi encore, les gens, voilà, je prends, je paye pas, je m'en fous. Tu leur donnes un rouleau de PQ, ils repartent avec le caddie. Moi, j'en ai vu une que je lui ai dit, tu te démerdes. Elle m'avait ramené un caddie pour que je lave la couette, donc je lave la couette, je remets dans le caddie, et arrivé là, elle m'a enlevé la couette, elle me dit, est-ce que tu peux m'aider? Le sac, il n'est pas ouvert, mais je vois la grosse bobine de rouleau de papier toilette. Là, je lui ai dit, non, tu te démerdes, j'ai vu ce qu'il y a dedans, mais je ne veux pas être... Tu te fais serrer. Je ne suis pas au courant, je ne veux pas être complice. C'est pas pour ça que je dirais, non, il faut appeler la sécurité. Tu te fais choper, c'est ton problème, j'irai pas te balancer non plus. Après, tout le monde le fait, moi ça m'est déjà arrivé de prendre des produits, mais je veux pas prendre pour les autres, je me fais griller, c'est mon problème. Après, c'est pas un gros vol, c'est du produit. Alors dans l'extrait que je viens de citer, on voit que d'abord il est tout à fait naturel pour Sandrine, qui est chef d'équipe, de laver la couette d'une des ouvrières avec les machines de l'entreprise. Il ne lui vient pas du tout à l'esprit de questionner cette pratique, c'est tout à fait normal pour elle. Pourtant, ce n'est pas du tout quelque chose d'autorisé par l'entreprise. Le cas du vol direct de petits matériels est légèrement différent puisqu'il semble pouvoir mener à des sanctions. Sandrine n'évoque pas les sanctions, mais il y a tout un champ lexical donc avec se faire griller, appeler la sécurité, prendre pour les autres, être complice, balancer, etc., qui laisse entrevoir une pratique qui est illégale. Cependant, ici aussi, on devine que la pratique du vol, tant qu'elle se maintient en deçà de certaines limites, pas un trop gros vol, est tolérée à minima par la partie la plus opérationnelle de la hiérarchie, comme les chefs d'équipe. Alors si le vol de petits matériels, qui est assez peu rentable au regard des risques encourus, puisque régulièrement dans les différentes entreprises, on a des exemples d'ouvriers qui perdent leur travail parce que ayant volé un peu de matériel, ça peut être le prétexte, quoi, en tout cas au licenciement. Si le vol est quand même aussi présent, c'est qu'il ne recouvre pas que des enjeux économiques. Par cette pratique, comme par celle du travail en perruque ou d'autres formes de réappropriation du temps de travail comme le freinage, les ouvriers et les ouvrières mettent en échec, d'une certaine manière, l'exploitation salariale. Alors, je ne développe pas là-dessus parce que je ne vais pas avoir le temps et je passe tout de suite aux pratiques un petit peu plus hors travail. Alors, si on peut rattacher les nettoyeurs et les nettoyeuses à la classe ouvrière, c'est aussi au vu de leurs pratiques sociales en dehors du travail ou autour du travail. Les habitudes alimentaires, les systèmes de dépenses et de recettes, et notamment le rôle de l'emprunt, ou encore les habitats investis par les nettoyeurs et les nettoyeuses, révèlent des profils caractéristiques qui, s'ils pourraient nous amener à préférer le terme de classe populaire, sont aussi marqués par l'activité ouvrière elle-même. Alors, on a des parcours de vie des nettoyeurs et des nettoyeuses qui sont variés sur les différents terrains, à la fois en fonction des terrains et à la fois à l'intérieur même des terrains, où on n'a pas, tous les parcours de vie ne se ressemblent pas, quoi. Et on peut même, j'en parlerai un petit peu après, distinguer différents types de parcours de vie. Mais on a toujours, j'ai mis presque toujours, mais c'est toujours en réalité, affaire à des positions sociales dominées et des formes de séparation culturelle. Et donc là, je viens de citer Schwartz, qui voilà les caractéristiques des classes populaires. On trouve dans ces parcours de vie de multiples traces de ce que Hogarth nommait la culture du pauvre, et qui invite à... ce que Hogarth nommait la culture du pauvre, pardon. Il en va ainsi notamment du rapport à la dépense et à l'emprunt, et donc là, ça me fait penser également à ce que racontait Yasmine tout de suite sur les ouvrières... de la blanchisserie. Par exemple, le cas de Diallo, nettoyeur dans l'hôpital, qui emprunte régulièrement une cigarette à l'un, 10 euros à l'autre, et qui, comme nombre de ses collègues, requiert une avance sur son salaire à la moitié du mois. On a le cas de Stéphanie, qui est nettoyeuse à la crèche, et qui me décrit, euro par euro, l'utilisation qu'elle prévoit des 200 euros de l'allocation de rentrée scolaire. Donc un jogging pour chaque enfant, Adidas, 30 euros, le sport pour toute l'année, etc. Et donc, avant même d'avoir l'allocation, elle a déjà calculé qu'est-ce qui va aller où, etc. Alors, il convient ici, très rapidement, de se prémunir de quelconque jugement moraux sur ces comportements et surtout de n'y voir que des attitudes qui seraient propres aux seules classes populaires. Mais on peut y voir des indices d'une certaine proximité des nettoyeurs avec ces pratiques populaires. Au passage, on retrouve également d'ailleurs à la crèche la même pratique concernant le pliage du linge, qui est aussi un espace où on échange comme ça autour de... C'est là d'ailleurs qu'elle va me raconter cette histoire d'allocation de rentrée scolaire, etc. Alors, bon, je passe là-dessus et je passe tout de suite aux enjeux de la relation de service. Alors, le travail de nettoyage, dans ses caractéristiques techniques, s'assimile clairement à une activité ouvrière. Mais si la figure de l'ouvrier ou de l'ouvrière du nettoyage se distingue de celle de l'ouvrier de l'automobile qui a tant fasciné la sociologie, c'est sans doute avant tout parce que le nettoyage est une activité de service. Donc activité ouvrière, certes, mais du secteur tertiaire. Cela est loin d'être sans conséquences. Et une première raison tient à la configuration de ce que Hughes appelait le drame social du travail, qui se tient au sein d'un triptyque d'acteurs, donc avec les ouvriers du nettoyage, les employeurs et les bénéficiaires. On peut même parfois avoir ce qu'on pourrait appeler un quadriptyque, avec en rajoutant, en distinguant dans ces bénéficiaires, les bénéficiaires, donc par exemple dans l'hôpital, les responsables de l'hôpital et puis les patients. Alors, le travail de nettoyage se fait donc au sein d'une relation triangulaire. Les nettoyeurs ne font pas seulement l'expérience d'une relation salariale classique où les seules personnes à qui ils doivent rendre des comptes sont situées dans la hiérarchie de l'entreprise, mais ils doivent aussi composer avec la présence ou l'absence des personnes identifiables comme clients de l'entreprise, c'est-à-dire le plus souvent les salariés de l'entreprise ou du service public donneur d'ordre, soit comme usagers du service de nettoyage qui peuvent être donc des collègues éventuellement dans le cas d'une absence de sous-traitance. Pour autant, comme le fait remarquer Ludovic, qui est un nettoyeur de clarinette, donc la première entreprise, celle où on nettoie des magasins, il s'agit bien d'un travail ouvrier. Quand je lui demande s'il se définirait comme ouvrier, il me répond, alors c'est assez intéressant puisque ça en dit aussi sur le profil, il me répond « Ah oui, oui, ouais, je suis ouvrier, je travaille en usine sur des machines, sur des chaînes de montage, sur des chaînes de production, ouais, je suis ouvrier ». En fait, là, il ne me décrit pas du tout son travail de nettoyeur, il me décrit son travail principal, puisqu'il se trouve que, comme beaucoup d'autres, c'est pour lui un emploi d'appoint, en fait, le nettoyage. Et donc, du coup, je le relance en lui demandant, et du coup, le nettoyage, on est ouvrier aussi quand on est dans le nettoyage. On est ouvrier aussi, ouais. Moi, je pense que le nettoyage, c'est ouvrier aussi. Donc voilà, deux façons de voir, c'est deux sortes, deux façons de voir le boulot d'un ouvrier. Ouvrier, donc, les nettoyeurs, mais d'une autre sorte, d'une autre façon. Et cette autre façon d'être ouvrier est fortement liée au contexte relationnel dans lequel le travail prend place. Les mécanismes d'évaluation, de reconnaissance et donc de lutte pour la reconnaissance, ou encore de visibilisation et d'invisibilisation, prennent place au sein d'un système de relations où les bénéficiaires de l'activité ont une place déterminante. Cette présence ou cette absence des bénéficiaires, c'est à la fois pour les nettoyeurs une contrainte et une ressource. D'une part, les bénéficiaires constituent une figure permanente de l'évaluation du travail, voire de son contrôle, par des commentaires quasi permanents, qui sont souvent des commentaires positifs, du type « vous faites ça bien, il faudra venir chez moi après », ça c'est presque quotidien, mais aussi des requêtes, nettoyer mieux que d'habitude tel ou tel endroit, donner un coup de main pour une autre tâche, etc. Ces bénéficiaires imposent aux nettoyeurs et nettoyeuses une gestion complexe des attentes des uns et des autres. Cette gestion est d'autant plus problématique que les attentes des bénéficiaires sont régulièrement contradictoires avec celles de la hiérarchie, ou même entre elles. Donc là, je peux donner un petit exemple à la crèche, par exemple, où je dois nettoyer un endroit en début d'après-midi, puisque les enfants n'occupent plus cet endroit parce qu'ils sont en sieste. Donc j'arrive à l'endroit, il se trouve que l'endroit est dérangé, donc c'est une piscine avec des petites boules, et donc les boules sont complètement dérangées parce qu'elles viennent d'être utilisées. Et anticipant sur les attentes de la professionnelle de la petite enfance, dont je sais qu'elle occupait cet espace et qu'elle était censée le ranger, je me dis, je lui donne un coup de main, je range l'espace. Donc je commence à ranger l'espace, et là une autre professionnelle de la petite enfance arrive, qui est en conflit avec la première, et me dit, c'est pas à toi de faire ça François, d'un air fortement désapprobateur. Et en fait, en voulant satisfaire les attentes de l'une, je me trouve prendre position dans le conflit et ne pas du tout satisfaire les attentes de l'autre. Donc là, il y a un problème du fait de cette contradiction entre les attentes des bénéficiaires. On voit ici tout le travail émotif qu'il faut déployer pour les nettoyeurs et les nettoyeuses, mais aussi les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour jouer son rôle dans le drame social du travail de nettoyage. Pour autant, ce drame social constitue aussi une ressource pour les ouvriers et ouvrières, je le disais tout à l'heure, puisqu'en s'alliant avec les bénéficiaires, on peut résister à la domination salariale incarnée par la hiérarchie. Cette ressource est particulièrement visible à la crèche et à l'hôpital, où les espaces de travail sont réguliers et permettent des relations à long terme entre la nettoyeuse d'un service, par exemple, et les infirmières, les médecins et les patients dans certains cas. Donc c'est moins visible dans la première entreprise, où on change de lieu tous les jours, donc il est extrêmement difficile de construire des relations stables avec les employés de Discount Plus. Ces relations pourront par la suite être mobilisées comme un atout, par exemple, lors d'un conflit avec un chef d'équipe. Donc si on reproche, par exemple, à la nettoyeuse d'un service en particulier de ne pas avoir fait une partie de son travail, on va pouvoir assister à des médecins, des infirmières qui vont prendre sa défense parce que, justement, elles sont en relation tout au long de l'année et qu'elles veulent garder cette nettoyeuse-là parce qu'elle est bien, on la connaît, etc. À l'hôpital, par exemple, dans mon cas personnel, je vais avoir lors de mon premier contrat, donc j'ai plusieurs CDD, et je vais avoir des personnels de l'hôpital qui vont aller parler pour moi au chef d'équipe pour que je sois réembauché, qui vont dire, voilà, toi, t'es bien, du coup, je vais aller parler pour toi au chef d'équipe. Donc, je me trouve à avoir intérêt à développer ces relations-là, qui vont d'ailleurs, par la suite, avec d'autres facteurs sans doute, me permettre d'obtenir un renouvellement de contrat. Alors, j'avais un passage sur l'externalisation que je vais passer parce qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler. Et je vais passer tout de suite, du coup, à la question de l'identification à la classe ouvrière. Alors, les nettoyeuses et les nettoyeurs sont donc, que ce soit par leur pratique sociale ou au travers des rapports de domination qui les lient à d'autres, ou au travers des formes de résistance qu'ils déploient, ce qu'il convient d'appeler des ouvriers du secteur tertiaire et des ouvrières du secteur tertiaire. Toutefois, les mécanismes d'identification à la classe ouvrière que l'on peut observer sont complexes et le terme d'ouvrier reste relativement peu mobilisé dans les discours des ouvriers et des ouvrières, justement. Alors, le problème, c'est que, justement, la figure de l'ouvrier du nettoyage, et donc là, je reviens sur ce que tu disais, Sabine, en introduction, il s'agissait de s'éloigner de la figure de l'ouvrier blanc, etc. Et le problème dans le nettoyage, c'est que, paradoxalement, contre toute attente, finalement, c'est cette figure-là qui est la figure ouvrier, qui est la figure de l'ouvrier. Donc l'ouvrier dans le nettoyage, quand on en parle, c'est un ouvrier qualifié, blanc, homme et tout ça. Les individus se définissant spontanément comme ouvriers le font en référence à un travail requérant des compétences spécifiques et renvoyant à des formes de valorisation virile. Ainsi, sur les trois terrains, en fait, on trouve essentiellement deux contextes dans lesquels le terme d'ouvrier est vraiment central et vraiment mobilisé dans les discours quotidiens. Et à chaque fois, il s'agit de travail qui est plus qualifié. Ce n'est pas du travail très qualifié, mais c'est du travail qualifié par rapport à l'ensemble du travail de nettoyage. Le premier de ces contextes, c'est à Clarinette, donc la première entreprise où on nettoie des magasins, quand les magasins nettoyés se trouvent faire face à une invasion de souris. Et donc, ils décident de mettre en place une procédure qu'ils appellent les nettoyages chocs, qui consiste à démonter entièrement les rayonnages et à poser des pièges dessous, à nettoyer en profondeur, etc. C'est un travail qui est plus dur physiquement, plus intense en tout cas, qui dure parfois la nuit entière, et qui est sous la supervision directe du cadre de Clarinette. Deux profils de nettoyeurs vont alors se distinguer à Clarinette, profils qui correspondent presque toujours au parcours migratoire des individus. D'un côté, on trouve des immigrés qui sont souvent récents d'Afrique subsaharienne et des personnes originaires des Dom-Tom. Les personnes originaires des Dom-Tom étant pour la plupart... Non, pour leur totalité, mais ils ne sont pas tous originaires des Dom-Tom parce qu'il y a aussi des immigrés maghrébins dans cela, à temps partiel, et leur travail à Clarinette est un travail d'appoint, donc comme le cas de Ludovic dont je parlais tout à l'heure. Et donc les autres sont des immigrés récents d'Afrique subsaharienne qui sont à temps complet, et tout cela ont un rapport négatif à leur travail. Ces individus vont, autant qu'ils le peuvent, refuser les nettoyages chocs, justement parce qu'ils considèrent que c'est trop dur, pas assez bien payé, etc. Et d'un autre côté, on va trouver des individus dont, et là c'est une supposition de ma part puisque je n'ai pas d'informations exactes là-dessus, je suppose une origine des pays du Maghreb, d'Europe de l'Est et du Sri Lanka, donc avec des origines notamment qui sont différentes, des parcours migratoires qui sont également souvent plus anciens. Et ces individus, au premier rang desquels Ahmed, le fameux cadre de Clarinette, vont au contraire s'investir dans ces nettoyages chocs et y trouver une source de reconnaissance. Et ce sont les mêmes qui vont également se désigner eux-mêmes comme ouvriers, donnant au terme un sens positif au travers de la valorisation d'un travail bien fait. Ahmed en particulier, qui est régulièrement par ailleurs dénoncé comme un feignant, quelqu'un qui ne travaille pas, etc., ce qui est relativement vrai du point de vue du travail ouvrier lui-même, quoi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose. Et donc lui va surinvestir un langage, alors qu'il n'est pas toujours le terme d'ouvrier, mais c'est mes gars, mon équipe, des bosseurs, etc., donc, qui sont des termes qu'on retrouve assez classiquement dans les pratiques ouvrières, justement. Ce contexte-là, on le retrouve quasiment point pour point à l'hôpital, dans les équipes de décapage, donc ces fameux moments où on doit retirer la cire du sol et reposer une nouvelle cire. C'est un travail mécanisé qui demande un petit peu plus de technique, etc. Et donc, pareil, c'est un travail qui est presque toujours masculin et qui donne lieu à des attitudes quasi identiques de refus des uns au parcours migratoire souvent similaire et de fierté ouvrière des autres. Et ici, on notera qu'à l'hôpital, dans ceux qui sont fiers, on a aussi des Français blancs, ce qu'on n'a pas à Clarinette. À Clarinette, je suis le seul Français blanc de l'entreprise. À l'hôpital, on a un certain nombre d'ouvriers français blancs, justement. Ce facteur d'origine et d'ancienneté de la, migration ou de la non-migration me semble lié aux perspectives qui s'offrent aux uns et aux autres. Les ouvriers qui ont un rapport négatif à ces travaux d'exception et ne cherchent pas à y trouver une reconnaissance de leurs qualifications sont aussi ceux qui ont le moins d'espoir d'une mobilité sociale ascendante dans la profession. Je n'ai croisé aucun chef d'équipe originaire de ces pays sur aucun des trois terrains et les racialisations dont les immigrés d'Afrique subsaharienne font l'objet tendent à leur rendre plus difficile l'accès à la reconnaissance en matière de qualification comme de capacité de direction. Dès lors, les stratégies d'évitement, qui rappellent celles décrites par Jounin chez les ouvriers du bâtiment, si elles ne sont pas plus payantes, sont en tout cas moins coûteuses que celles d'un investissement fort au travail. Cette idée est corroborée par le fait qu'à Valévol, où ces ouvriers sont organisés syndicalement, c'est le seul des terrains où il y a des syndicats, le refus des décapages n'est pas total, mais lié à des exigences salariales. Ces ouvriers refusent les décapages du fait de l'absence de primes, mais il leur arrive de les accepter si la prime est rétablie. Ce n'est par ailleurs, ce sera mon dernier point, pas un hasard si l'on parle plus souvent d'un ouvrier du nettoyage et d'une femme de ménage. L'identification au monde ouvrier, liée à l'identification à un travail qualifié, concerne avant tout des ouvriers qui présentent certaines caractéristiques. Alors j'avais mis qu'ils font d'eux une fraction dominante de la classe ouvrière, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, une fraction dominante des nettoyeurs, disons. Ce sont plus souvent, presque tout le temps en fait, des hommes, plus souvent désignés comme blancs ou français, plus nombreux à disposer de qualifications reconnues, c'est-à-dire reconnues par des diplômes ou par des formations. Ceux qui se disent spontanément ouvriers sont ceux qui, au travers de ces caractéristiques sociales, peuvent redéfinir leur travail positivement. Ce rapport positif est très clairement observable s'agissant des perspectives d'avenir, puisque ces ouvriers et rares ouvrières sont aussi les rares à s'imaginer monter les échelons, devenir chef d'équipe, bref, faire carrière dans le secteur. Là où la grande majorité soit envisage de faire autre chose, soit fait déjà autre chose, soit s'est résigné à un secteur qu'on pourrait qualifier, pour reprendre le mot d'Hélène Bretin, d'antichambre du chômage. Il existe toutefois un cas intéressant à Valévol d'une personne ayant un rapport positif à son travail sans pour autant faire référence au monde ouvrier. Il s'agit de Sandrine, toujours la même chef d'équipe. Son discours est très engagé dans un rapport positif au travail, mais ne parle que très rarement d'ouvrier. De tout l'entretien réalisé avec elle, le mot n'est prononcé qu'une fois suite à une question de ma part qui contenait déjà le mot. D'elle-même, Sandrine parle d'agent, d'AS, d'AQS, donc agent de service, agent qualifié de service, ATQS, agent très qualifié de service. Bref, elle reprend à son compte le discours des grilles de classification et des employeurs du secteur. Comme eux, elle parle d'ailleurs plus souvent de propreté que de nettoyage. Ce rapport positif au travail de la part de Sandrine est largement lié à une construction du travail comme qualifié, mais, et le fait qu'elle soit une des rares femmes dans un tel rapport positif n'est sans doute pas sans importance, cette qualification n'est pas une qualification virilisée comme précédemment. Sandrine ne participe pas aux travaux de décapage, elle n'en a aucune envie, elle n'essaye pas de s'intégrer aux équipes de décapage, à la différence de tous les chefs d'équipe masculins, qui au contraire veulent faire partie de ces équipes et se valorisent comme ça, parce que moi je sais décaper, ils ont une grande attention à montrer qu'ils savent décaper. En revanche, elle tire sa fierté de ses connaissances en termes d'organisation du travail et tout particulièrement dans le secteur de la santé, où elle a connu le travail non externalisé. Et donc là, on voit régulièrement dans le discours de Sandrine, que ce soit au travail ou dans l'entretien, ressurgir la figure de l'agent de service hospitalier qui est réactivé et qui insiste sur les précautions d'hygiène, le rôle du nettoyage dans la prévention des maladies nosocomiales ou encore la relation avec les patients, qui sont des choses très importantes pour Sandrine. On le voit surgir beaucoup aussi dans son conflit avec un des chefs d'équipe qui est quelqu'un qui a été un peu pistonné pour arriver là où elle a commencé ouvrière et puis est montée. Donc elle est en fort conflit avec celui-là et elle va régulièrement dénoncer chez lui l'incapacité justement à comprendre les patients, à faire attention aux agents, etc. Autrement dit, c'est au travers de compétences et de connaissances liées au care et donc désignées comme féminines que Sandrine construit son identité professionnelle. Et son exemple est sans doute assez révélateur de la difficulté pour des femmes nettoyeuses, qui constituent tout de même presque 70% de l'ensemble de la profession, de se construire une identité ouvrière. Alors j'en viens à ma conclusion. Nous avons vu que les nettoyeurs et nettoyeuses, de par leur pratique sociale au travail, comme hors et autour du travail, présentent de nombreuses caractéristiques qui les rattachent à la classe ouvrière et qui sont réinterprétées au travers d'une relation de service. Pour autant, leur identification à cette classe, le passage d'une classe en soi à une classe pour soi, si on veut reprendre la distinction marxiste, est loin d'être évidente. Elle procède de mécanismes complexes qui n'impliquent pas autant les différents ouvriers et varient très largement en fonction de caractéristiques sociales, comme le sexe, les parcours migratoires, mais aussi la qualification ou le temps passé dans l'emploi. Surtout, il apparaît que la référence à la classe ouvrière constitue avant tout une manière d'affirmer une qualification et un rapport positif au métier, ce qui est caractéristique d'une minorité de nettoyeurs et plus rarement de nettoyeuses. En ce sens, la question de savoir s'il convient de toujours catégoriser ces individus comme des ouvriers peut rester au moins partiellement ouverte. Une telle catégorisation est sans doute à la fois la reconnaissance de cette qualification à ceux qui la proclament, mais c'est aussi l'enfermement dans une position sociale d'autres personnes dont la perspective est de fuir cette position sociale. J'ai terminé.
Merci. On va faire comme précédemment, si vous avez une ou deux petites questions. Oui, Pierre.
Alors bonjour, tout d'abord merci pour votre présentation qui était très intéressante. Moi je voudrais juste revenir sur la notion de résistance à l'hôpital concernant l'apprentissage et la transmission du travail et des couches notamment qu'il vous faisait apprendre, et sur la notion de résistance. Parce que moi, j'ai eu un peu de mal, justement, avec cette notion, dans le sens où je ne sais pas trop comment, si on peut définir ça vraiment comme une résistance ou plutôt une réappropriation du travail prescrit par l'organisation pour être plus efficace, pour pas se faire râper par l'organisation, etc. Et si c'est vraiment une résistance vraiment contre la direction.
Alors, pour l'exemple dont j'ai parlé, on pourrait éventuellement discuter de est-ce que c'est vraiment une résistance ou est-ce que c'est plutôt finalement une visée d'efficacité productive, quoi. Mais d'une manière générale, en fait, c'est-à-dire que là, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé du coup, mais notamment au niveau du freinage, on le voit très bien, c'est quelque chose qui est transmis dès le début de l'apprentissage, tout de suite. C'est-à-dire que classiquement dans le nettoyage, en gros, quand on arrive, la première journée, on la passe avec quelqu'un qui est de l'entreprise. Donc là, je suis quelqu'un pendant une journée qui me montre tout ce que je dois faire, etc. Et en fait, cette personne va à chaque moment me dire bon, ouais. Et puis là, tu prends une pause. Et puis là, surtout, tu te presses pas trop. Et puis là, et toutes ces pratiques-là sont mises en avant. Et ça, le rôle du freinage, je crois qu'il a vraiment une fonction de résistance à la domination, dans le sens où des fois, on voit que le freinage est mis en œuvre pas parce qu'on est fatigué en fait, mais vraiment. Parce qu'il faut freiner, par principe, quoi. Et du coup, il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc, je pense que d'une manière générale, on peut dire ça. Après, sur le cas que j'ai donné là, peut-être qu'effectivement, Aziz, sa perspective, c'est plutôt l'efficacité productive. Mais je pense qu'il y a quand même plutôt l'idée de ne pas perdre trop de temps, quoi.
Donc, Prisca. Oui, juste une petite demande de précision. Je voulais savoir si, dans le cadre des équipes qui intervenaient, vous avez repéré des formes de division sexuelle du travail. Alors, moi, c'est un terrain que je connais pas, mais je trouvais ça intéressant, votre distinction entre ouvriers de nettoyage et femmes de ménage. Et ça me rappelait un documentaire qui avait été diffusé sur Arte il y a un an ou deux, où on suivait des entreprises de nettoyage qui nettoyaient dans les hôtels ou les bungalows après les vacances. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'on voyait les hommes plutôt sur les machines, c'est-à-dire qui nettoyaient le sol qui était sur machine, qui avait aussi des machines qui relevaient d'une certaine technologie pour faire les vitres. Et on voyait les femmes avec les éponges, avec la balette pour les chiottes, voilà, disons-le, et qui avaient finalement le sale boulot, qui était souvent à quatre pattes, qui était bon. Voilà, je voulais voir si c'était une distinction que vous aviez repérée.
Alors, merci pour cette question. C'est évidemment le cas. C'est ça qui est très intéressant, notamment dans le secteur, c'est qu'il y a 70% de femmes. Mais en fait, il y a des pans entiers du travail qui sont complètement masculins ou presque. Alors, pas toujours dans le sens où une même pratique peut être dans certaines entreprises réservée aux hommes et dans d'autres entreprises réservée aux femmes. C'est-à-dire, ce qui est important, en fait, c'est le maintien d'une distinction toujours. Il y a toujours des tâches d'hommes et des tâches de femmes, sauf quand il n'y a que des hommes ou que des femmes. Mais par contre, le maintien d'une distinction, ça, c'est très important. Et donc à l'hôpital, notamment, qui est le secteur où, qui est le terrain le plus mixte, c'est tout à fait évident. Les équipes de décapage sont quasi uniquement masculines. Il y a une femme qui va, j'en parlerai après, mais il y a une femme qui va faire partie de ces équipes quand même. Mais sinon, c'est uniquement masculin. Il y a tout un corps d'agents qui sont des agents qualifiés. Et j'ai perdu le terme, on les appelle les... Bon, c'est ceux qui passent la lustreuse, quoi. J'ai perdu le terme, ça va peut-être me revenir. Et ceux-là, c'est que des hommes. La lustreuse, c'est une machine, ouais. Donc, tous ceux qui passent des autolaveuses, j'ai jamais vu une seule femme sur une autolaveuse. Et j'ai jamais... Donc, il y a 7 femmes des équipes de décapage, c'est la seule que j'ai vue manier une monobrosse. Mais sinon, globalement, les femmes ne manient jamais les machines, qui sont absolument réservées aux hommes. Sauf quand justement il y en a une qui arrive, et c'est là que c'était assez intéressant, c'est que elle était, donc c'était une jeune femme qui était assez qui avait une sacrée personnalité, quoi, et qui avait réussi, enfin qui s'était trouvé intégrée aux équipes de décapage, parce qu'il se trouvait que les refus dont j'ai parlé de participer au décapage posaient un vrai problème à l'entreprise, et que du coup ils prenaient les gens comme moi en CDD et tout ça pour le faire à la place de ceux qui ne voulaient pas le faire. Et donc, ils avaient pris cette fille. Et en fait, elle se battait pour avoir la machine, etc. Mais de base, on ne la formait pas, quoi. Moi, on m'a tout de suite formé. Quand je suis arrivé, on m'a tout de suite dit, tiens, bah, prends la machine, essaye, etc. Elle, c'est elle qui a dû faire la démarche de demander et presque prendre la machine de force pour pouvoir le faire, quoi. Mais c'est absolument séparé...